grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. À qui vous adressez-vous lorsque vous priez? Se pourrait-il que ce soit, sans vous en rendre compte, un autre Dieu que le Dieu vivant? Connaissez-vous le Dieu de la Bible, celui qui a créé les cieux et la terre, et qui donne la vie à tout ce qui existe, qui a établi des lois régissant l'univers entier, et qui concerne aussi le monde minéral, végétal, animal, sans oublier l'homme? La loi divine a été établie pour notre bien, pour le bonheur, la santé et le bien-être de l'humanité. Si cette loi était bien observée, l'homme serait débarrassé des maladies, des soucis financiers, des guerres, des massacres, enfin de toute souffrance physique et morale qui s'acharne sans arrêt sur la race humaine partout dans le monde. David a écrit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ». L'apôtre Paul ajoute « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon ». Certains aimeraient que Dieu simplifie sa loi pour la rendre plus souple, plus facile, moins pénible à vivre alors qu'elle est synonyme de plénitude. D'autres encore, et qui forment la majorité des chrétiens, ont rejeté la loi divine parce qu'ils pensent qu'elle n'est plus en vigueur. Pourtant, cette loi émane de la sagesse sans limite du Dieu suprême qui a conçu ce vaste univers si complexe. L'apôtre Jacques déclare « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Dieu souhaite que chaque chrétien l'adore, le craigne, le respecte et lui obéisse. L'apôtre Jean a écrit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Les gens pensent communément que les commandements ont été donnés pour la première fois du haut de la montagne du Sinaï. Pourtant, plus de 400 ans auparavant, Abraham les observait déjà, comme le confirme l'Éternel à Isaac, lorsqu'il lui déclara « Je te bénirai, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Lorsque Adam et Ève se trouvaient dans le jardin d'Éden, Ève rappela à Satan, qui était à leur côté, que Dieu leur avait interdit de toucher et de manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, de peur qu'ils ne meurent. Mais Satan leur prétendit le contraire. « Vous ne mourrez point. » La femme prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ce fut le premier péché. Satan exploita la crédulité d'Ève et elle succomba à la tentation en y entraînant son époux. Les 10 commandements sont le fondement de la loi. Ils ont été établis pour toujours et étaient déjà en vigueur à l'époque d'Adam. Afin de bien comprendre les 10 commandements et de réaliser à quel point ils sont importants, il est bon de se rappeler que Dieu appela Abraham, Isaac et Jacob. Il leur fit des promesses physiques et spirituelles qui devaient se concrétiser par l'intermédiaire du Christ. L'Éternel conduisit Joseph en Égypte pour qu'Israël et ses fils survivent aux 7 années de famine. Après la mort de Joseph, les Israélites devinrent esclaves sous un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Dieu les libéra en provoquant de fantastiques miracles jusqu'à fendre la mer Rouge pour qu'ils puissent traverser à sec et refermer les eaux sur Pharaon et son armée. Dieu prit soin d'eux, leur rappela ses lois, et pendant 40 ans, l'Éternel fit une série de miracles pour leur rappeler l'importance du jour du repos. Moïse jugeait le peuple. Il déclara à Jéthro, son beau-père, « Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Lorsque les Israélites arrivèrent devant le mont Sinaï, Dieu ne leur donna pas une nouvelle loi, mais il leur rappela simplement les commandements sous une forme codifiée. Il leur proposa ensuite une alliance pour qu'ils deviennent son peuple et lui-même serait leur Dieu pour autant qu'ils obéissent fidèlement à ses commandements, à ses lois, à ses ordonnances et à ses statuts. Comme il s'agissait de lois saintes, l'Éternel les leur donna en manifestant sa puissance d'une manière spectaculaire. Il les écrivit ensuite de sa propre main sur deux tables de pierre. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Dans ce décor majestueux, l'Éternel rappela à cette génération qui tremblait de peur sa loi éternelle. Il leur dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est ici le premier commandement. Comment peut-on avoir un autre Dieu devant la face de l'Éternel? Tous les chrétiens ne s'adressent-ils pas au vrai Dieu des cieux? La réponse est non. Puisque certains croient que l'Éternel de l'Ancien Testament est le Père, et d'autres que le Christ a eu un commencement, ils affirment qu'il est l'archange Michel ou Michaël. Certains prétendent que Dieu est une entité composée de trois personnes, alors que le terme Trinité ne figure même pas dans la Bible. De la première à la dernière page de la Bible, il est question de deux personnes qui composent la famille divine, deux seulement. L'apôtre Jean écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire avec le Très-Haut, qui allait devenir le Père à la naissance du Christ. La parole qui plus tard deviendra le Christ est l'Éternel de l'Ancien Testament. C'est lui qui fit sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte et qui l'accompagna dans une colonne de nuée ou de feu. » L'apôtre Paul confirme que ce rocher qui les suivait était Christ. L'homme doit s'assurer qu'il adore le vrai Dieu, le Créateur et Maître de l'univers. Il doit avoir prouvé que c'est au vrai Dieu qu'il obéit et apprendre à le craindre et à le respecter. Salomon a écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. » Cette crainte n'est nullement une peur, mais un profond respect, une reconnaissance de l'autorité de Dieu, de sa puissance, de son amour et de sa grande sagesse. En disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », le Créateur leur confirmait qu'aucun des soi-disant dieux qui sont dans le monde n'est plus élevé que lui, n'a une sagesse, une compréhension, une miséricorde, une gloire et une puissance comparables. Il convient de noter que le mot hébreu traduit par « devant » peut signifier « à la place de ». Les Israélites devaient savoir qu'ils ne pouvaient rien mettre à la place du vrai Dieu. Si vous êtes chrétien, disciple du Christ, vous devez vous rappeler les paroles prononcées par Jésus. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et à un homme qui lui demandait ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle, Jésus répondit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il a encore ajouté « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'apôtre Jean souligne que nous devons vivre comme le Christ a vécu. Nous devons suivre ses pas. L'observance des commandements tels que donnés au mont Sinaï doit imprégner la vie quotidienne du véritable chrétien. En disant « Je suis l'Éternel ton Dieu », ce Dieu qui a créé toutes choses s'adresse ainsi à tous les êtres humains. Est-il votre Dieu? Est-ce bien lui que vous servez et à qui vous obéissez? Vous êtes-vous forgé d'autres dieux auxquels vous rendez un culte conforme à la tradition des hommes? Aux scribes et aux pharisiens, Jésus dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. observer des commandements tronqués, altérés, et se croire malgré cela disciple de Christ n'est qu'un leurre. Prenez donc la peine de lire et de comprendre les commandements de Dieu tels qu'il les donna dans le 20e chapitre du livre de l'Exode et dans le 5e chapitre du livre du Deutéronome. Vous serez peut-être stupéfait de découvrir que votre mode de vie est loin de correspondre à ce que Dieu attend de vous. En disant « Je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », Dieu fait remarquer que le véritable chrétien, celui qui veut se soumettre totalement à sa volonté, à ses commandements et à ses lois, doit sortir de la servitude, de l'esclavage du péché et du monde, car dans la Bible, l'Égypte symbolise le péché. Lorsqu'une personne est convertie, elle sort volontairement de cette servitude et elle veut vivre selon le mode de vie que révèle la loi divine. Dieu ordonne « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Avez-vous mis quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu? Votre temps, vos intérêts, votre travail, l'argent, votre demeure, votre famille ou vous-même? Quelles sont vos priorités dans la vie? Si quelqu'un ou quelque chose a pour vous plus d'importance que Dieu, vous avez placé une idole entre lui et vous. Lisez-vous la Bible dans le but de découvrir sa volonté et de la mettre en pratique, ou par simple curiosité intellectuelle? Certaines personnes sont véritablement obsédées par l'argent et par le désir d'en posséder toujours plus. Cet argent est devenu ainsi leur Dieu. Si Dieu est écarté de votre vie par un souci, par un être cher, par un projet quelconque, ne serait-ce que momentanément, alors, dans ce cas, vous avez aussi un faux Dieu. Les gens qui vont à l'église par habitude ou par tradition ne savent pas ce qu'est le culte de Dieu. Ils ne connaissent pas le véritable Dieu, quoi qu'ils en pensent. Malgré leur présence régulière à l'église, Dieu n'est pas le centre de leurs pensées, et ils ne sont pas motivés à mieux le connaître. Dans le Sermon sur la montagne, le Christ déclare « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon symbolise la richesse. Jésus ajoute « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Ne vous inquiétez donc point, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu veut-il nous voir tout abandonner et vivre dans la pauvreté? Absolument pas. L'apôtre Jean a écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Mais c'est une question de priorité. Il ne faut pas que ces choses matérielles occupent la première place dans notre vie et passent avant Dieu en devenant un faux Dieu placé entre le Dieu vivant et nous. Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Méditez votre vie et ses priorités, car le fait d'avoir un ou plusieurs faux dieux est peut-être inconscient chez vous, et déterminez ainsi si vous transgressez ou non le premier commandement.